Bonjour, nous sommes le mardi 1er février 2022, nous sommes à Clermont-Ferrand, je suis David Meulemans, éditeur aux éditions aux Forges de Vulcain, et je suis en présence de Pierre Rofast.
Bonjour.
Alors Pierre Rofast, tu es écrivain et romancier. Alors je précise parce que les gens te connaissent comme romancier, mais en fait tu n'as pas commencé comme romancier.
C'est vrai. J'ai commencé en 2007 ou 2008 avec deux ouvrages de management.
D'accord. Vrai. Alors, mais qui ont déjà une dimension assez littéraire parce que en fait, ils sont très instruits d'un point de vue littéraire.
Oui, alors c'était le clin d'œil qui m'amusait. Moi, j'ai toujours écrit en fait pour m'amuser et pour découvrir de nouveaux horizons. Donc en 2007-2008, je travaillais dans une grande entreprise. Je travaille toujours dans une grande entreprise. Et j'observais un peu le balai des gens, des managers, etc. Et ça m'a fait penser aux fables de La Fontaine, du moins dans sa dimension, la cour du roi, où Versailles, c'était 7000 courtisans, les gens qui font des courbettes, les privilèges accordés par le roi. Et en fait, je me suis amusé à faire ce parallèle entre ce que j'observais moi en tant que manager ou salarié et ce qu'on pouvait voir à l'époque ou ce qu'on pouvait imaginer à la cour du roi Louis XIV. Et donc, j'ai fait deux ouvrages de management qui, globalement, traitent de font le parallèle entre les fables de La Fontaine qui parlaient de l'homme en tant que les traits caractéristiques de l'humain, hein, que l'on retrouve aujourd'hui, c'est-à-dire c'était vrai au XVIIe, c'était vrai au XVIIIe, c'était vrai au XIXe, et c'est toujours vrai aujourd'hui, parce que l'homme ne change pas fondamentalement avec ses besoins de reconnaissance, ses besoins, enfin, l'arrivisme qui peut toujours exister, etc. Donc oui, c'était deux livres qui faisaient des clins d'œil littéraires sur un sujet qui est contemporain, qui est le management.
Et alors, en t'écoutant, je pensais à deux choses. C'est que initialement, je me disais, on se retrouve aujourd'hui parce qu'on est à quelques jours de la sortie de la nouvelle édition d'Habemus Piratam, qui était ton quatrième roman, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Oui.
Et donc, on va en parler tout à l'heure. Habemus Piratam, c'est un roman qui est un vrai roman, mais qui a aussi un lien avec ton environnement professionnel, d'une certaine façon. Mais c'est vrai que ça ouvre aussi un deuxième sujet auquel je n'avais pas pensé, mais qui est une évidence, parce que ces jours-ci, je me pose beaucoup de questions sur quelle est l'esthétique de Pierre Rofast. Et en lisant tes romans, ce qui me frappe, c'est que il y a un grand sens psychologique dans tes romans, mais c'est pas des romans psychologiques au sens où c'est très discret, ce sens psychologique. Et en fait, là, tu m'as donné l'occasion d'y repenser, parce que finalement, cet intérêt pour la psychologie, tu l'avais déjà dans ces deux premiers textes de non-fiction, qui sont antérieurs donc à ta carrière de romancier.
Alors, je ne sais pas si c'est un intérêt pour la psychologie ou un intérêt tout court pour comprendre le monde qui m'entoure. Je pense que je suis quelqu'un d'assez curieux et en fait j'aime bien voir dans quel monde j'évolue et comprendre les choses. Donc mes premières expériences professionnelles tournaient autour du management et j'ai voulu creuser pour savoir. Ensuite, effectivement, maintenant, je travaille plus dans la cybersécurité et la même chose, je suis curieux, j'ai voulu apprendre des histoires, comment ça fonctionnait et d'où la genèse d'Habemus Piratam. Mais c'est plus une curiosité non ciblée, j'allais dire.
Oui. Non, mais alors c'est particulièrement intéressant parce que je pense au fait que parfois on fait cette distinction entre la littérature générale et la littérature de science-fiction, par exemple, sur le fait que toute littérature serait littérature de quelque chose, aurait un objet. En fait, la littérature générale, quel est son objet ? Est-ce que c'est simplement la société, la psychologie ? Et toi, potentiellement, tu es un écrivain total qui peut écrire dans tous les genres littéraires parce que la curiosité, en fait, va te mener, selon les situations, soit vers les sciences dures, soit vers les sciences molles. Voilà. Est-ce que c'est une caractérisation de ton travail que tu accepterais, c'est-à-dire que cette clé qui est la curiosité ?
Alors, il y a deux dimensions, je pense. Il y a la curiosité et il y a vraiment aussi le goût de raconter des histoires. Je suis fasciné moi-même en tant que lecteur ou téléspectateur par les bonnes histoires et par l'originalité, en fait. Je suis vraiment admiratif pour des histoires originales. Et quand tu croises ça avec la curiosité, il y a toujours moyen de s'émerveiller de choses quand on lit le journal, quand on observe dans la rue, etc. Je suis vraiment à l'affût d'anecdotes. Et les anecdotes, pour moi, sont le starter, en fait, le premier point d'accroche pour une histoire. Et ça, oui, je pense que c'est ça qui me caractérise plutôt, ce croisement entre la curiosité et l'imaginaire ou l'envie de raconter des histoires.
Alors ça me fait penser à un trait commun que tu as avec un autre auteur des Forges, dont pourtant vos romans sont très différents, mais c'est un trait commun, c'est avec Gilles Marchand, qui en fait lui a longtemps été nouvelliste avant d'être romancier. Et un de vos traits communs, c'est dans des grands romans, vous avez la capacité à raconter des micro-histoires. Et ça, c'est quelque chose qui est lié donc à ce sens de l'anecdote.
Oui, alors j'aime bien effectivement Gilles Marchand, je pensais pour ça, parce qu'on se reconnaît en termes de manière d'écrire. Et il faut vraiment, moi, que je me fasse, comment on dit, que je me fasse violence pour ne pas écrire de nouvelles, puisqu'en fait, je suis naturellement attiré vers la nouvelle. Et d'ailleurs, mon premier roman, La Fractale des Raviolis, quand j'ai voulu l'écrire, ben, j'ai terminé, le roman faisait 6 pages, quoi. C'était une nouvelle. C'était une nouvelle. Et j'ai vraiment eu du mal à franchir le cap de la nouvelle parce que je ne me sentais pas légitime. Étant scientifique, je ne me voyais vraiment pas, à partir d'une idée, écrire 200 pages. Donc j'étais vraiment à l'aise dans la nouvelle. Et quand en 2012-2013, enfin 2012, quand j'ai écrit ce premier roman-là, je me suis renseigné quand même, je me suis aperçu que le marché de la nouvelle était très complexe, en France du moins. Globalement, ça ne se vendait pas, enfin c'était pas le style. Hein. Et étant un auteur, par définition, inconnu, n'étant pas un people vivant à Clermont-Ferrand, étant informaticien, ça faisait déjà beaucoup d'handicap pour être publié. Et je me suis dit, si en plus de ça, j'écris des nouvelles, enfin, j'aurais aucune chance d'être publié. Et donc j'ai rusé, en fait, ceux qui connaissent La Fractale des Raviolis pourront très bien comprendre, enfin, ou imaginer facilement, qu'en fait, c'est des nouvelles qui ont été un peu, avec une structure par-dessus, qui transforment ces nouvelles en un roman. Donc j'ai biaisé comme ça, j'ai truandé un peu le système, mais finalement c'est ça qui a fait l'originalité du livre, parce que la structure, l'emboîtement de ces histoires, de ces nouvelles en fait, c'est ça qui a été original et qui a plu à l'éditeur en fait, et au lecteur.
Oui, bah, alors moi ça m'amène, ça résonne beaucoup avec ma propre expérience d'éditeur parce que une autrice américaine que j'aime beaucoup, c'est Ursula K. Le Guin, et qui est, alors tu disais que c'est une difficulté en France, la nouvelle, alors qu'effectivement, quand on regarde aux États-Unis, il y a encore des lieux pour faire de la nouvelle. Donc, par exemple, un auteur des Forges comme Charles Yeo, il publie des nouvelles un peu à droite à gauche dans des grandes revues, dans des grands magazines à fort tirage. Aujourd'hui, il n'y a pas de grands magazines à fort tirage en France qui publient de la nouvelle. Et Le Guin, elle, il y a deux remarques sur Le Guin, c'est que son premier roman, c'est une extension d'une nouvelle qu'elle avait écrite en 63, et puis 3 ans après, elle en a tiré un roman. Et après, elle donne souvent ce conseil, elle dit un roman, il faut que chaque page soit elle-même une fiction, en fait. Et je pense que les auteurs qui sont passés par la nouvelle ont cette qualité, parce que cette pression qu'on exerce sur les auteurs débutants en leur disant faut faire du roman, ça a un effet contraire, c'est que souvent ils font des grandes architectures où effectivement il y a une histoire globale, mais ils ne savent pas faire le page à page, c'est-à-dire agripper l'attention, raconter une anecdote, une histoire dans chaque page. Et voilà. Donc ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, on a parlé de Gilles Marchand, mais que j'apprécie particulièrement chez toi. Alors effectivement, La Fractale des Raviolis, ton premier roman publié chez Alma, a une structure formelle originale. C'est, pour moi, c'est comme des parenthèses qu'on ouvre et qui vont toutes se refermer les unes après les autres. Donc c'est
C'est
des,
ça.
ou c'est des poupées russes
C'est des
peut-être?
poupées
C'est
russes,
des
oui.
poupées
En
russes.
général, je prends l'image des poupées russes où on commence avec une première histoire qui ne se termine pas, on enchaîne avec qui débouche sur une seconde histoire, une troisième histoire, quatrième histoire, et au milieu du livre, ben, on va refermer dans l'ordre inverse, hein, les poupées, et le dernier chapitre fait écho au premier chapitre. Hein. Mais en fait, j'ai découvert cet intérêt pour les structures à ce moment-là, en fait, quand je me suis amené. Et du coup, tu as raison, la structure peut amener un plus dans l'histoire. Notamment avec cette profondeur d'histoire. Moi, je parle des harmoniques, en fait. Comme dans le son, il y a une harmonique principale qui est l'histoire du roman. Et ça, on le voit très bien dans les séries. Ça veut très bien faire aujourd'hui. C'est-à-dire, globalement, une saison, il y a une histoire. Mais ça n'empêche pas que dans chaque épisode, il va y avoir des sous-histoires ou des dénouements différents. Et dans un roman, tu as tout à fait raison. Moi, j'aime bien faire ça. Il faut que chaque chapitre soit autosuffisant et raconte en lui-même une histoire. Alors, c'est pas vraiment une nouvelle, puisque si c'était des nouvelles, ça serait indépendant. Les uns des autres, les chapitres seraient indépendants. Donc on garde quand même cette harmonique principale qui est de dire j'ai une trame au niveau de mon roman, mais au niveau de chaque chapitre, il se passe quand même quelque chose.
Mais ça, il y a beaucoup de scénaristes américains ont comme ouvrage de référence un ouvrage de la fin des années 70, début des années 80, qui s'appelle Story de Robert McKee, qui va donner plein de conseils sur la construction aristotélicienne du récit. Mais à la fin, il dit, tout ça, la construction, c'est des choses qui peuvent s'apprendre parce qu'on peut les exprimer. Mais ce qui relève vraiment du talent et donc de la pratique très très régulière, c'est ce qu'il appelle le beat. C'est-à-dire comment on crée du rythme dans chaque scène, en fait. Et en fait, on se rend compte que finalement, l'essentiel de ces efforts de pédagogue, c'est des efforts pour essayer d'aider les gens à créer des scènes. Alors, l'équivalent dans le roman, c'est créer de la page, c'est-à-dire avec l'anecdote, le micro-récit qui fait qu'on agrippe le lecteur ou la lectrice qui a envie de connaître la suite et voilà. Qui fait que ça fonctionne en fait, c'est ça. Alors, mais on revient tout petit peu en arrière. Qu'est-ce qui te fait passer de l'écriture de non-fiction à l'écriture de fiction? C'est certes globalement ce goût pour les anecdotes et ce goût pour la fiction, qui a un goût de lecteur, mais il y a quand même un moment de
Oui, alors
déclenchement.
il y a plusieurs choses. La première, c'est que pourquoi j'ai écrit des livres de management, parce qu'il fallait que je m'occupe le soir, n'est-ce pas, comme tout le monde. J'avais une certaine créativité que j'employais avant dans la création de logiciels, libres. Et à une certaine étape de ma vie, j'en ai eu marre, alors parce que principalement les technologies évoluent tellement vite que tout ce qu'on fait, il y a une sorte de fenêtre glissante qui fait qu'en informatique, tout ce qu'on a fait il y a 5 ans n'existe plus en fait, hein. Donc c'est quand même assez frustrant, c'est pas pérenne, on apprend, on devient super bon dans un domaine et puis pour tout réapprendre 5 ans après. Donc ça m'amusait quand j'étais jeune, mais vers 35 ans, ça a commencé quand même à me fatiguer. Et je me suis dit, bah tiens, moi, je vais faire autre chose, je vais employer ma créativité pour faire un livre de management. Donc j'en ai écrit un, j'ai eu une commande sur un thème assez similaire pour un deuxième, et j'avais trouvé certes un bon filon, mais je me disais, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas passer 20 ans de ma vie à écrire sur le même sujet, à exploiter ce filon-là. Et à l'époque, donc j'avais deux filles, hein, donc qui sont nées en 2001 et 2004, à qui j'aimais raconter des histoires. Et là, c'est là, à ce moment-là, que je me suis vraiment découvert cet intérêt et cette passion pour inventer des histoires et les raconter. Jusqu'à présent, je n'avais pas eu trop l'occasion au boulot de raconter des histoires, si ce n'est le pipeau traditionnel. Mais là, vraiment, je me suis vraiment pris au jeu d'imaginer, d'inventer des histoires quand j'étais en voiture, coincé dans les embouteillages, et surtout des histoires à rallonge où il restait encore 10 minutes, ben, j'en rajoutais 10 minutes. Et je me suis dit, ben, tiens, première expérience dans le livre de management qui est quand même très spécial, hein, c'est des livres professionnels, c'est pas le même accueil, c'est pas la même façon de travailler. Pourquoi pas écrire des livres pour enfants, en fait, des histoires pour enfants. Et j'ai eu beaucoup de mal, parce que je me suis aperçu que c'était beaucoup plus complexe que ceux que j'avais imaginés, notamment dans les tranches d'âge, dans les codes, on peut pas écrire n'importe quoi, il faut des illustrations, etc. Donc j'ai laissé tomber et j'ai commencé à écrire des nouvelles. Donc en 2008-2009, je faisais partie d'une association pour écrire des nouvelles. Donc chaque trimestre, il y avait des nouvelles. J'ai gagné plusieurs fois. Le prix, il n'y avait pas de prix, mais c'était un classement par les adhérents eux-mêmes. Donc j'étais premier, deuxième, troisième, premier, etc. Ce qui m'a donné confiance en moi. Et ainsi, j'ai commencé à travailler sur un premier roman qui a été inachevé, un deuxième roman inachevé aussi, et un troisième roman qui a été les prémices de la Fractale des Raviolis. Voilà. Mais c'était vraiment pour raconter ces histoires, avoir ce plaisir créatif que l'on trouve vraiment en informatique, où on peut vraiment faire ce qu'on veut. On voit dans les jeux vidéo, on peut faire voler un éléphant rose, il n'y a aucune contrainte. Et en fait, j'ai vraiment retrouvé cette liberté-là dans l'écriture, chose que j'imaginais pas. Enfin, vraiment, dans la Fractale des Raviolis, je suis parti dans tous les sens et on m'a autorisé, enfin, je me suis autorisé à le faire et ça a plu. Donc, oui.
Et donc la fractale, tu envoies le manuscrit par la poste,
Pour la poste, oui.
tu t'es publié chez Alma, l'ouvrage a une réception très très élogieuse, et là, quand ça sort, tu as déjà commencé à écrire ton deuxième
Ah
roman?
oui, parce qu'en fait, ça a été assez long. Ça a été assez long. Le contrat a été signé en l'été 2013, quelque chose comme ça, pour une publication en août 2014, donc un an après. Et donc, j'ai pu commencer le second roman. Et le gros avantage que j'ai eu par rapport aux autres primo-romanciers, c'est que j'avais pas la pression du premier roman, puisque le roman n'était pas encore sorti. Donc, je savais pas si ça allait faire un flop ou si ça allait avoir du succès. Donc j'ai écrit la variante chilienne tout à fait librement et surtout dans cette excitation de savoir que j'allais être publié. Et ça, je pense que c'est inestimable. Enfin, tous les aspirants à écrivains le disent, hein. Ce qui est gênant, c'est qu'on peut écrire avec cette espèce de fatalisme qui veut dire, de toute façon, ça sert à rien, je ne serai jamais publié. Là, j'ai commencé vraiment ce deuxième roman en disant, quelqu'un a aimé mon premier roman, même si je ne sais pas quel sera son accueil. Et donc, j'ai vraiment... j'ai aucune contrainte, aucune limite dans le second roman, et je peux me lâcher, je peux vraiment me faire plaisir. Et ça, vraiment, c'est un état d'esprit que j'ai plus jamais retrouvé après.
Oui, mais ça c'est alors c'est précieux parce que effectivement dans l'édition on parle parfois de la malédiction du deuxième roman parce que ce qui se passe souvent c'est que déjà médiatiquement l'attention pour les deuxièmes romans est assez faible en France, c'est-à-dire que il y a une relative attention pour les premiers romans et après il y a une attention forte pour le septième ou huitième roman, le roman de la confirmation, mais entre les deux ça peut vraiment être la traversée du désert, donc c'est un peu cruel cette phase-là. Et surtout, il y a beaucoup de jeunes romanciers ou romancières qui, après le premier roman, en fait, se disent, je vais être publié, donc c'est fantastique, donc c'est lancé. Alors qu'en fait, c'est
Que le
comme dans
début.
l'escalade, c'est que le début d'une autre phase, en fait, d'escalade, qui peut être très, très, très longue. Et puis, c'est précieux quand tu rappelles que, voilà, tu sais que quelqu'un a lu et a accorder une première reconnaissance et que ça te permet d'aller plus loin, parce que c'est vrai que c'est toujours délicat, c'est que c'est un moteur de l'écriture quand même d'avoir un peu de reconnaissance, mais le problème c'est que si on s'attache trop à la reconnaissance, le jour où on traverse le désert, ce qui arrive à tous les artistes en fait, il y a quand même un risque de casser hein, une sorte de moteur intérieur qui est un peu difficile. Mais toi, sauf si je me trompe, tu n'as pas eu de traversée du désert, puisque ton deuxième roman est très bien accueilli aussi. Donc, ton deuxième roman, c'est la variante chilienne. Cette fois-ci, on est sur quel type de structure sur la variante?
J'avais anticipé et je m'étais dit, il faut pas que je ressorte la même structure que la fractale des raviolis. Parce que pour moi, la structure est une partie inhérente de l'histoire et du roman. Hein. C'est-à-dire que la structure, c'est pas que le squelette, ça emmène le lecteur, ça tire le lecteur par la main quelque part. Hein. Et donc là, on est plutôt sur une arête de poisson. Autant sur la fractale de Ravioli, il n'y avait pas vraiment d'histoire principale, on était vraiment sur des nouvelles emboîtées. Là, sur la variante chilienne, je me suis dit, il faut une histoire, donc une harmonique de base, comme on a dit tout à l'heure, avec des petites histoires qui vont se raccrocher. Donc on est plutôt sur une arête de poisson, tu vois, avec la colonne vertébrale, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais qui est l'histoire principale de Margot, Florin, etc., qui deviennent amis. Et puis chacun raconte sa petite anecdote avec l'histoire des souvenirs, des cailloux, et ça, tu en fiches en fait des arêtes dans la colonne principale. Donc on est plutôt sur une structure comme ça. Donc là encore, on retrouve cette attirance pour les nouvelles, mais qui sont structurées sous forme de souvenirs, qui est une astuce bien pratique.
Mais quand je t'entends, je me dis que on est arrivé par des biais très très différents et des pratiques très différentes à une idée qui est analogue. C'est que moi, pendant longtemps, en tant qu'éditeur, je dissociais deux niveaux complets de réflexion sur les textes, qui était un niveau que j'appelais la suprastructure, mais qui est en fait juste l'histoire globale, le canevas, et le niveau du page à page, c'est-à-dire le travail de la page avec l'auteur. Et puis je me suis rendu compte en fait que les très bons romans, les meilleurs manuscrits, c'était les fonds-formes. C'est celui où ces deux niveaux ne sont pas dissociés, c'est-à-dire que le niveau de la page reflète la grande structure et donc le thème va donner le choix de la forme. Et d'une certaine façon, c'est ça qui est assez fantastique dans tous tes romans, c'est que tous tes romans ont un thème particulier et le thème donne une forme particulière. Et alors, dans quel ordre ça apparaît chez toi? C'est t'as d'abord l'idée de la forme et puis le thème apparaît ou
Alors ça, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. J'ai été très intrigué sur comment fonctionne le cinéma, en fait. Et quand tu regardes, je suis allé dans des salons pour étudiants, là, pour mes filles, et je les laisse aller dans leur stand, et moi, je vais voir dans les écoles d'art et les écoles de cinéma, et tu t'aperçois qu'il y a 12 000 métiers sur un tournage d'un film, en fait. Et l'auteur, si tu réfléchis bien, en fait, il est la synthèse de tous ces métiers-là, c'est-à-dire il est à la fois le scénariste, évident. Il est aussi le monteur, parce que c'est lui qui va, en fonction de la structure, dire bah, je fais des flashbacks, je fais, etc. Il est le dialoguiste, il est la prise du son pour l'ambiance sonore, l'ambiance olfactive, etc. Et en fait, tu retrouves, il est en fait, l'auteur, il va avoir toutes les cartes en main pour réaliser son film, qui n'est pas un film, qui est un roman. Mais en fait, tu retrouves tous ces métiers-là, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, dans un film, je me dis finalement, ça doit être super frustrant d'être scénariste, parce que le scénario n'est pas forcément respecté dans l'ordre, etc. Le cadreur, la photo aussi, ça peut être frustrant, mais ça peut être aussi très bien. C'est eux qui donnent un ton, les gens qui font les lumières, tu vois, ça peut donner. Mais en fait, le romancier a toutes ces cartes-là en main. Et donc, le romancier qui se considère uniquement comme un scénariste, à mon avis, il ne peut pas faire du bon boulot, parce qu'il lui manque des cordes à son arc, il lui manque des outils pour sortir le bon livre. Et donc, pour répondre à ta question, c'est compliqué, je ne sais pas. J'ai souvent l'idée en tête, bien entendu, je ne pars pas d'une structure, ça serait un peu artificiel. Et ensuite, en fonction de cette idée, ben, je regarde quelle est sans doute la meilleure façon de le raconter. Si moi, j'aimerais entendre cette histoire, et donc ça tire la structure, en fait. La façon de raconter, c'est le montage, en fait, d'un film, hein, c'est le métier du monteur, donc ça vient, j'imagine, c'est assez fusionnel, bien entendu, et ça vient très tôt, en tout cas. Ça vient très tôt, ça vient en amont, parce que je ne conçois pas. Alors, je sais qu'il y a plein d'auteurs et d'autrices qui font différemment, hein, j'en ai discuté, c'est super intéressant, mais moi, c'est pas ma façon de faire. Je viens, encore une fois, de l'informatique, donc sans doute formaté par cette façon de se dire, quand on écrit un logiciel, on ne part pas la gueule enfarinée en se disant, tiens, comment je vais le faire? Donc, je pars vraiment avec l'idée vraiment basique, ce qui tient sur une page, et la structure. Et une fois que j'ai ça, après, je sais où je vais, et je peux faire un chapitrage beaucoup plus fin, qui n'est pas définitif, hein, je peux le changer, mais au moins, ça vient très très tôt, la structure.
Oui, lors de du précédent épisode de cette petite série que je fais de rencontres avec les auteurs des Forges à l'occasion de la publication de leur nouveau roman, lors du premier épisode, j'étais avec Romain Ternaux qui, effectivement, lui, a une technique qui consiste à abattre de la page directement avec une micro-idée, mais pas de structure. À l'inverse, et ça fait écho à ce que tu dis, les auteurs des Forges qui sont dans leur emploi diurne des scénaristes, comme Charles Yu, Franck Thomas, Adrien Pochet et Gilberto Villarroel, ont, pour au moins trois d'entre eux, évolué vers des métiers de la production, parce que ça leur permet, en n'étant pas juste scénariste, de reprendre un peu de contrôle sur le processus, ce qu'effectivement, et c'est quelque chose que, sur lequel Franck Thomas, qui pour lui est vraiment purement scénariste, a attiré mon attention, c'est que le bénéfice pour un scénariste d'aller faire du roman, c'est de regagner du pouvoir, parce que quand on est un vrai scénariste professionnel, en fait, on est parfois minoré ou un peu écrasé par un processus artistique où il y a plein d'autres intervenants qui vont un peu diminuer l'importance ou la nécessité de votre apport. Alors, ton troisième roman chez Alma, La Baleine Thébaïde, pour moi, la structure est moins facile à décrire. En fait, comment tu la décris, La Baleine Thébaïde?
Alors, La Baleine Thébaïde, pour moi, c'est la même histoire racontée par plusieurs points de vue différents. C'est-à-dire, on va commencer par l'histoire de la baleine racontée par Reichwil, après par, je ne sais plus comment il s'appelle, le méchant, le hacker, etc. Donc, en fait, c'est des points de vue différents. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, à savoir, bah, il n'y a pas de. Y a pas de
Mais au
y a,
cinéma,
voilà.
c'est Kurosawa qui a employé ça
Oui.
plusieurs fois sur. Je crois que c'est Rashomon qui utilise ce
Ouais.
dispositif de raconter plusieurs fois. Et même, non, récemment, le dernier duel de Ridley Scott repose sur ça. Un
D'accord.
film injustement méconnu, mais qui était
Ouais.
un bon film, où le même événement est raconté par le mari, le meilleur ami du mari et l'épouse bafouée.
D'accord. Ouais. Ben, oui, alors moi j'ai été aussi inspiré dans le livre japonais qui s'appelle Les 10 amours de Nashino, je crois. Qui raconte ça, en fait, qui raconte l'histoire d'un homme. L'homme ne parle pas, mais on le décrit uniquement par rapport au récit des 10 femmes qui l'ont connu. Dans l'ordre, pas forcément chronologique d'ailleurs, donc ça fait une sorte de mosaïque. Et ça, j'aimais bien de se dire qu'en fait, il n'y a pas une seule vérité, il y a uniquement des points de vue différents. Et raconter cette histoire qui est assez terrible de solitude, de baleine, du point de vue du petit jeune un peu naïf, un peu candide, du point de vue directeur complètement parano qui est un vrai vilain de James Bond, du point de vue du hacker qui essaie juste de survivre. Et en fait, on a des points de vue différents sur qu'est-ce que c'est le bien et le mal. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Donc, c'était plutôt ça, cette structure. Et je la représente en fait sous forme de lignes parallèles qui, à la fin, se rejoignent pour raconter en fait la fin qui est factuelle et qui est indépendante, enfin, qui est indépendante des acteurs, en fait.
Ton quatrième texte chez Alma, c'était la première édition d'Habemus Piratam. Alors, on ne va pas en parler tout de suite parce que je veux le garder pour le morceau final. Après, c'est le Cerbère blanc chez Stock. Et donc, alors là, la construction est encore plus complexe, je trouve, dans le Cerbère blanc. Une fois, tu m'avais fait un schéma des constructions et c'était peut-être la construction la plus atypique. Alors, c'est quoi le Cerbère blanc?
Alors, le Cerbère blanc, j'ai eu c'est un livre auquel je tiens beaucoup, alors qui a été injustement lu parce qu'il est tombé quelques jours avant le premier confinement en mars 2020. Donc, il est passé vraiment sous les radars et tant pis. Mais c'est typiquement le livre où j'avais prévu une structure que je n'ai pas respectée. Et là, j'ai compris un truc de fondamental. En fait, quand je discutais avec des gens qui me disaient je me laisse porter par mes héros, je les regardais toujours avec un petit sourire poli en disant c'est du pipeau, c'est pas vrai, il faut avoir défini une histoire avant parce que sinon il y a beaucoup de travail, etc. Et là, en fait, j'ai compris ce qu'ils voulaient dire. C'est-à-dire, dans le Cerbère blanc, j'ai voulu faire un livre un peu plus intimiste où on laisse plus part à leur psychologie, des sentiments, de l'émotion, en fait. Et je me suis aperçu au moment où j'écrivais, une fois que j'étais vraiment dans ma bulle en train de réfléchir comme le héros qui s'appelle Mathieu, qu'en fait ce que j'avais prédéfini en quelques heures avant, ça tenait pas. C'était pas psychologiquement tenable, c'était pas crédible du point de vue, c'était pas crédible émotionnellement, si tu veux. Et là, je me suis dit, je comprends quand mes collègues me disent, je me laisse porter par mes personnages, ce que ça veut dire. Ça veut dire tout simplement que quand tu n'écris pas une histoire qui est, comme tu disais, avec du rythme, etc., qui est pas un polar, qui est pas un truc qui tient le rythme, en fait, ou en fait, ce qui est important dans l'histoire, c'est le partage d'émotions au lecteur ou à la lectrice, dans ce cas-là, ben en fait, le personnage à l'instant T où tu l'écris, il faut suffisamment de temps et de concentration et d'immersion pour comprendre en fait quelle est la vraie logique et la vraie suite de l'histoire. Et donc là, j'ai eu beaucoup de retravail parce que ce que j'avais imaginé du point de vue purement intellectuel n'était pas crédible. Donc ce livre-là, en fait, la structure a été pas mal malmenée. Aussi par l'éditrice, parce qu'on en a beaucoup parlé avec elle à ce moment-là, sur qu'est-ce qui serait logique, qu'est-ce qui serait crédible, alors non pas logique, et qu'est-ce qui serait crédible du point de vue des sentiments et des émotions. Donc la structure a été un peu compliquée à écrire. Mais globalement, c'est pareil, c'est un peu pareil que La Baleine, c'est une histoire, donc c'est un drame qui est raconté par les deux protagonistes, c'est-à-dire le garçon Mathieu et la fille Amandine, qui sont très proches lors de leur adolescence, et qui après vont suivre deux chemins séparés pendant 20 ans et qui vont se retrouver. Donc c'est vraiment, là encore, point de vue de l'homme, point de vue de la femme, qui bien entendu divergent.
Mais alors ça me fait penser à quelque chose parce que tu as une analogie lointaine avec un autre auteur, c'est avec Pérec, qui est un auteur qui d'ailleurs était intéressé aussi par les notions, le concept de programmation, donc a été membre de l'Oulipo. Et une hypothèse sur Pérec, alors je ne suis pas spécialiste de Pérec, j'ai une fois rencontré, enfin, je n'ai pas rencontré, on va être très franc, c'est que j'ai fait mes études avec la grande spécialiste française de Pérec, Marilyn Eck, mais qui m'a très gentiment offert son livre sur Pérec, et que je n'ai toujours pas lu, malheureusement, je ne suis pas très gentil de ce côté-là, mais je le lirai. Mais j'ai une hypothèse sur Pérec, il faudrait que je lui demande si c'est une hypothèse qui n'est pas fantaisiste, que pour moi, le grand génie de Pérec, c'est que il met au point des principes formels, un peu comme toi par moment, et quand il a à arbitrer entre... Est-ce que je suis la logique de mon histoire ou est-ce que je respecte la forme que je me suis donnée? Il va toujours arbitrer en disant ce qui est important, c'est le plaisir de la fiction. Et il va basculer comme ça. Ce qui fait que je pense que une grande partie de la littérature de l'Oulipo peut être un peu artificielle ou peut être perçue comme artificielle, ce qui n'est jamais le cas de Perec, que je trouve un auteur très émouvant. Par exemple, pour moi, W ou le souvenir d'enfance, c'est à la fois un concept, un livre concept, et c'est très émouvant. Et donc toi, tu as fait cette expérience, c'est-à-dire que tu avais ce principe organisateur du récit, et à un moment, effectivement,
Ça tenait
ça t'a
pas, ouais.
échappé.
Ça tenait pas. Mais je pense que c'est un bon principe. Il ne faut pas que la structure se voie dans quoi que l'on fasse. Enfin, il ne faut pas que la forme soit privilégiée au fond. C'est-à-dire parce que le plaisir de lecture, en fait, doit globalement, le lecteur ou la lectrice ne doit pas voir les grosses ficelles derrière. C'est vrai pour un film, c'est vrai pour un livre, pour une BD, pour n'importe quoi. Ouais.
Oui, et puis quand le dispositif est trop. On peut avoir. Moi, je sais qu'en tant que lecteur, je peux avoir une forme de jouissance intellectuelle à me dire, ah, c'est vraiment bien fait. Mais après, c'est court en bouche. Tu sais, on n'y repense pas. Alors qu'en fait, dans les vrais grands romans, on repense aux personnages, on
C'est
repense aux
souvent à la
situations.
fin en fait qu'on s'aperçoit quand on ferme le livre, on se dit, oh, dis donc, c'était drôlement bien foutu. C'est-à-dire qu'il m'a amené à un endroit d'une façon à laquelle je ne m'attendais pas, quoi.
Et le roman qui a suivi, c'était ton entrée dans le catalogue des Forges avec les Embrouillamini.
Oui.
Et alors là, parle-nous des Embrouillamini.
Alors les Embrouillamini, c'est un projet que j'avais depuis de nombreuses années, pour plusieurs raisons. Donc les Embrouillamini, c'est un roman où le lecteur va pouvoir choisir la suite de l'histoire. Donc un peu à la mode de livre, vous êtes le héros, sauf que c'est des chapitres de plusieurs pages. Le lecteur va dire, bah, à la fin du premier chapitre, en fonction de l'alternative, bah, je vais au chapitre 5 ou je vais au chapitre 23 directement. Et alors pourquoi j'ai fait ça? Deux choses. Premièrement, parce que quand je rencontrais les lecteurs et les lectrices sur les salons ou dans les librairies, c'était très rare que les gens aient un avis unanime sur la fin, en fait, sur la fin d'un livre ou sur le développement d'un livre, mais surtout sur la fin. Dans La Baleine Thébaïde, j'avais 50% des gens qui me disaient, ah, c'est génial, c'est super, puis l'autre, mais pourquoi t'as fait ça? C'est nul, enfin, j'aurais imaginé quelque chose d'autre. Hein. Et en fait, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de fin universelle ou de bonne histoire universelle. Chacun le lit avec sa sensibilité et sa projection. Et donc je me suis dit, en plus c'est bête parce que dans l'histoire de la baleine, mais de Habemus Piratin, enfin de tous les livres en fait, moi j'avais plein de fins alternatives. Parce que quand j'imagine et que j'écris un livre, j'en imagine, je sais pas, au moins une dizaine de versions. De ces dizaines de versions, je vais en gratter deux ou trois pour voir où ça va, et finalement je vais en choisir qu'une. Donc en fait, mon imagination ou mon disque dur de mon ordinateur, comme tu veux, est rempli de versions inachevées ou de versions qui ne seront jamais publiées et qui pourtant auraient pu trouver leur public. Parce que bah, c'était une sensibilité qui aurait préféré la version A plutôt que la version B. Et donc les Embrouillamini est venu de cette idée folle en disant, bah, chiche, on va laisser le choix au lecteur de choisir bah, ce qui lui veut, ce qui lui plaît le mieux en fonction de sa sensibilité, de ses choix, de son courage, de là où il se projette par rapport au héros. Donc voilà, c'était écrire un livre. Alors à la différence des livres dont vous êtes le héros qui sont très centrés sur l'action, où il n'y a pas de rémanence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de souvenir. Au chapitre 162, on ne se souvient plus de ce qu'on a fait au chapitre 50, parce que ce n'est pas possible techniquement. Donc là, la grosse difficulté, c'est pour ça que j'ai été bloqué quand même quelques temps avant d'arriver à trouver l'astuce, c'était de dire comment, si le héros vit avec toutes ses émotions, par exemple une histoire d'amour au premier chapitre, qui bifurque et qu'on le retrouve 5 chapitres plus loin, comment va-t-il faire pour l'oublier? Ou pas, suivant s'il a vécu cette histoire ou pas. Donc c'était vraiment une technique assez complexe et j'ai buté pas mal de temps sur ça. Mais globalement, ça venait de là, ça venait de cette envie de laisser au lecteur le plaisir de choisir en fonction de ce qu'il lui voulait. Et du coup, de le mettre face à ses responsabilités, parce qu'à
Oui,
la fin,
même
si son expérience de lecture est satisfaisante ou pas, ben c'est de son ressort en fait.
moi, c'est un roman que j'ai adoré éditer. Et en fait, à chaque roman, l'éditeur ou l'éditrice apprend plein de choses. Enfin, c'est généralement l'idéal du métier. Mais ce qui m'a frappé aussi, c'est qu'il y avait quelque chose que je ne connaissais pas du tout, c'était les attracteurs de Lorentz, qui, alors, c'est un concept scientifique, donc pour certains auditeurs, auditrices, ça ne dira pas grand-chose, mais il y a cette idée, en fait, que souvent on se dit, ah, si j'avais fait un autre choix, ma vie aurait été différente. Et en fait, une sorte de réalisme ou de lucidité psychologique peuvent nous amener à nous dire que dans toutes les versions alternatives de notre vie, il y a des choses qui reviendront toujours, qui sont des sortes de patterns. C'est un peu ça, les attracteurs de
C'est
Lorentz.
ça, alors oui, alors et c'est ça qui m'a permis d'écrire ce livre-là, parce que si on part uniquement sans contrainte, à la fin de chaque chapitre, il y a deux alternatives, on finit avec un livre qui fait 6000 pages en fait. Donc l'idée, c'était de resserrer, de pouvoir trouver des points de convergence. Et effectivement, je me suis intéressé à la théorie du chaos des attracteurs de Lorentz, qui dit qu'en fait, dans un événement, c'est pas tant le hasard où l'événement va surgir, qui est la théorie des ailes du papillon, en fait, que beaucoup de gens connaissent, c'est surtout qu'en fait, comment le dire, indépendamment de l'origine de l'événement, ce qui compte, c'est qu'en fait, ça va toujours converger vers une fin qui est la même. Je prends l'exemple de l'avalanche, en fait. Effectivement, l'avalanche peut naître ou sur le sapin de droite, le sapin de gauche, en fonction de micro-événements. Mais ce qui est sûr, c'est que la neige, au bout du bout, elle va finir en bas de la piste. C'est parce que c'est un attracteur. Et le meilleur attracteur, c'est après la pluie, le beau temps, en fait, hein, si on réfléchit bien. Et donc, à partir de là, comment on calque ce phénomène physique ou mathématique dans nos vies? C'est de dire, il y a effectivement des motifs qui se répètent dans toutes les vies, alors qui sont vrais pour 95% des gens, hein. Bien sûr, il y a toujours des gens qui vont vous dire, moi, c'est pas vrai, mais globalement, on passe par une phase, on meurt, donc c'est un attracteur absolu, mais entre les deux, on va faire une période qui s'appelle l'adolescence, où beaucoup de gens le passent, ensuite un désir de vivre en couple, donc ça aussi c'est un attracteur. Ensuite, pour certains, pour la majorité, un désir de maternité, par exemple, d'avoir des enfants. Ensuite, la crise de la quarantaine, etc. Donc, entre ces deux, c'est un peu comme des points de passage dans une course de ski, là où il y a des portes, des jalons. Donc, entre les deux, on fait ce qu'on veut, mais à un moment donné, on va converger. Après l'adolescence, on va vouloir se mettre en couple. Après, on fait ce qu'on veut, mais à un moment donné, 5-10 ans plus tard, on va vouloir avoir un enfant, etc. Et c'est ce point de vue-là qui m'a permis de recentrer l'histoire des embrouilles à Mini et de repasser plusieurs histoires en parallèle, les refaire converger vers des points de passage.
Alors, on a été rejoint par ton chat qui s'appelle
Il s'appelle Doudou.
Enchanté, Doudou. Doudou, ne mets pas ta patte sur le micro parce que ça va être beaucoup plus dur d'enregistrer l'émission. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la réédition aux éditions aux Forges de Vulcain d'Abemus Piratam, réédition avec une couverture d'Elena Vieillard, la graphiste des éditions aux Forges de Vulcain. Une édition qui est légèrement augmentée par une petite postface de ta main. Abemus Piratam, alors, de nouveau, il y a une réflexion sur la forme, parce qu'en fait, c'est des récits qui sont tous des récits d'une confession, en fait, en plusieurs étapes, qui sont en fait les commandements divins. Un personnage qui avoue qu'il a enfreint ses commandements. Et c'est aussi un moyen pour toi, on a déjà évoqué ça au début de notre entretien, de parler de cybersécurité, on peut dire ça comme ça ?
Oui, alors depuis 2014, je travaille dans le domaine de la sécurité informatique, et qui est un sujet qui est assez romanesque en fait, parce qu'on voit des choses assez extraordinaires. Et en 2015-2016, j'étais avec des collègues de bureau dans des... pas dans les salons, dans des conférences en fait, cyber, avec des intervenants du monde entier, et on entendait des histoires mais absolument extraordinaires, enfin, que l'on ne voit pas dans les films, James Bond-like, mais vraiment très intéressantes. Et je me disais, il y a quand même une matière là, une matière brute à exploiter, mais de façon intelligente au sens où réelle, non caricaturée. C'est très compliqué en fait de parler de hacking pour le grand public en fait, quand on voit. On tombe forcément dans le cliché. Pourquoi ? Alors je me suis d'abord posé cette question-là. Pourquoi les attaques informatiques ou les pirates, les hackers étaient toujours représentés sous forme de clichés ? Et en fait, je me suis dit que ce qui était compliqué, c'est que c'est comme une partie d'échec, en fait. C'est-à-dire, pour bien apprécier une partie d'échec et pour trouver le 25e coup admirable, il faut bien connaître les échecs, il faut avoir pratiqué. Et en sécurité informatique, c'est un peu pareil. C'est une course à l'ingéniosité entre les gentils et les méchants, entre les policiers et les gens qui se dopent. C'est toujours la même histoire, en fait. Hein. C'est les gendarmes et les voleurs. Mais là, ce qui est beau, c'est que ça se fait sur un terrain purement intellectuel, puisque le hacker et le policier sont à des milliers de kilomètres de distance, se disputent via écran interposé, et en fait, c'est toujours « je vais trouver la faille que tu n'as pas prévue ». Donc c'est très intellectuel, c'est vraiment du puzzle en fait, c'est un jeu de casse-tête. Sauf que c'est un puzzle qui est très technique, qui se base sur des failles de logiciels, donc il faut déjà comprendre comment sont bâtis les logiciels, il faut comprendre les langages de programmation, il faut comprendre comment fonctionne l'ordinateur, comment fonctionnent les réseaux informatiques, et ça, bien entendu, c'est pas la portée du premier venu. Donc le challenge, c'était comment arriver à vulgariser et à faire comprendre la beauté d'une attaque, la beauté intellectuelle d'une attaque, sans tomber dans du charabia et du jargonnage informatique que peu de personnes liraient. Donc c'était mon parti pris avec Abemus Piratam, c'était arriver à écrire, alors je ne sais pas si c'est réussi, mais je l'espère, un livre plutôt grand public, mais que les experts ne renieront pas et qui se diront, tiens, pour une fois, ça a été écrit par quelqu'un qui connaît le métier. Donc, à distiller certains indices, certains noms parfois, ou certaines technologies qui sont réelles, ou certaines techniques d'attaque qui sont réelles, mais qui sont quand même vulgarisées. Donc, c'était vraiment le challenge numéro un de ce roman.
Ah, mais c'est un défi qui est remporté haut la main. Alors moi, ça m'a particulièrement touché parce que dans ma famille, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé chez IBM. Voilà. Et donc quand j'étais enfant, c'était un sujet de conversation, l'informatique. Et j'ai ce qui est, alors, juste pour répondre à quelque chose que tu mentionnais, c'est vrai qu'il y a comme deux écueils quand on veut parler de cet aspect du réel, parce qu'en fait, le roman parle du réel en général, et quand on veut parler de cet aspect du réel, c'est-à-dire l'informatique, la sécurité informatique, soit on va basculer dans quelque chose de trop technique, soit on bascule dans quelque chose de quasi magique, parce que en relisant Habemus Piratam, je me rendais compte que le cinéma, la plupart du temps, avait décidé de basculer le hacking dans la magie, c'est-à-dire que c'est un moyen de dire, de toute façon, on va pas pouvoir l'expliquer, donc on renonce complètement. Et sciemment, on réintroduit comme ça de la magie dans le monde réel, c'est-à-dire que le hacker, c'est la personne qui, sur son téléphone portable ou son ordinateur portable, en 3 minutes, a cassé toutes les clés de sécurité, et voilà. Et essaye de le figurer d'une manière, bah, c'est une forme de prestidigitation. Alors qu'en fait, ce qu'on voit dans le texte, moi, par moments, j'ai l'impression que le personnage du hacker, c'est une forme d'Ulysse, hein, c'est-à-dire que on voit que la qualité d'Ulysse, c'est pas nécessairement le courage, et c'est encore moins la force physique, c'est vraiment l'ingéniosité. Et créer des personnages ingénieux, et puis ingénieux, on voit aussi qu'il y a une dimension technique, mais aussi toujours une dimension psychologique, puisque dans les réseaux, souvent la faille, c'est aussi l'être
C'est
humain.
l'humain, alors c'est ce qu'on dit. En fait, c'est très rare d'avoir vraiment des exploits informatiques très haut de gamme. En fait, c'est très très rare. La majorité, je vais dire 95% des attaques, d'une part, c'est très basique du point de vue informatique. Ça me fait toujours marrer quand on dit dans les journaux qu'on a attaqué un petit génie parce qu'il a piraté tel site ou tel site. C'est pas vrai en fait. C'est essentiellement, ça commence toujours par ce qu'on appelle du social engineering, donc de l'ingénierie sociale, c'est-à-dire comment je persuade quelque chose de faire quelque chose, de faire une action pour moi en fait, révéler son mot de passe, rentrer son mot de passe sur un site, etc. Donc c'est des arnaques en fait, c'est essentiellement ça. Et ensuite c'est du bidouillage, souvent à partir d'outils qui sont trouvés sur Internet, c'est-à-dire c'est même pas le hacker qui développe ses propres outils. Donc la majorité du hacking, c'est quand même assez faible au niveau technique et c'est beaucoup de manipulation des gens en fait. Hein. Donc ça c'est intéressant. Et justement, Habemus Piratam prend le parti ou le point de vue du hacker. C'est-à-dire c'est lui qui va expliquer comment il a réussi à faire ces attaques-là. Donc quelque part, il démystifie ces attaques et comme tu l'as dit, bah, la magie s'envole un peu, mais c'est ça qui est intéressant. On comprend qu'en fait, c'est alors. Certaines attaques sont quand même assez complexes, mais d'autres, ça reste très accessible. C'est uniquement je t'embrouille, j'utilise un peu de technique pour y arriver, quoi.
Alors, en plus, ce qui est assez frappant, c'est que même s'il y a régulièrement dans la presse grand public des articles sur des pannes informatiques qui ont été provoquées par des tentatives de piratage, ou des tentatives réussies parfois, lisant ton texte, j'ai l'impression qu'on ne mesure pas que c'est peut-être un des très grands dangers de notre temps dont les conséquences peuvent être cataclysmiques, en fait. Est-ce que toi, tu as cette impression que
Ah ben,
c'est...
alors, il n'y a pas que moi. Le World Economic Forum classe tous les ans les risques majeurs d'entreprise et ça fait plusieurs années que le cyber-risque est dans le top 3. Donc, en gros, il y a le dérèglement climatique, il y a la pandémie, et il y a le cyber, ou dans l'ordre différent, mais c'est comme ça. Enfin, c'est évident, hein, c'est évident. On a une telle dépendance aujourd'hui par les acteurs globaux, hein, que ce soit les Google, les Microsoft, etc. Si Google demain tombe en panne, l'économie s'arrête. Hein. Donc,
Ouais, quand il y a des pannes de Facebook qui durent 1 heure,
ouais.
c'est le traumatisme mondial,
Ah
hein.
oui. Alors
C'est...
c'est le traumatisme sur un besoin qui n'est pas nécessaire encore,
Oui.
enfin qui est superfétatoire. Tu imagines Google qui alimente, alors Google on le connaît pour le moteur de recherche, mais ils sont ou Amazon, ils sont extrêmement présents sur tout ce qui est location de machines et de data centers pour toutes les entreprises. Hein. Il y avait eu le cas récemment avec un hébergeur qui s'est arrêté. Il y a toutes les médiathèques, pour rester dans notre métier, hein, dans les médiathèques et bibliothèques se sont arrêtées pendant plusieurs semaines. Hein. Donc imagine si Google s'arrête demain, tu arrêtes vraiment l'économie. Hein. Donc c'est un drame. Et donc qui dit arrêter l'économie, c'est pas juste une figure de style. C'est-à-dire les camions ne peuvent pas partir de leur entrepôt, on ne peut pas livrer les supermarchés, les gens ne peuvent plus manger, enfin c'est tout ça. Hein.
Oui, c'est. Alors, je pense que c'est quelque chose qui est évoqué déjà dans la fiction, mais de manière, je trouve, assez maladroite au cinéma, puisqu'il y a toujours ce hacker qui fait sauter le système bancaire. Voilà, il y a toujours cet aspect-là. Mais voilà, on va dire qu'Habemus Piratam, c'est à la fois très drôle, très intelligent. Il y a un petit côté outil d'alerte. Alors, tu n'es pas un lanceur d'alerte, hein, je ne te donnerai jamais ce titre, enfin, pas sur ce titre-là. Mais voilà, donc je suis très très content qu'on publie Habemus Piratam. Quand je pense à tous les romans que tu as publiés, souvent il y a des très très grands thèmes, très classiques en fait, dans tes romans, qui peuvent être le choix et le poids du choix dans Les Embrouilles à Minuit, qui peut être dans La Baleine Thébaïde, de la vérité, comment plusieurs personnes ont chacun leur vérité sur un événement. C'est quoi le prochain grand thème pour le roman d'après? Si tu peux le dire, sans dire ce qu'est ce roman, hein, nous en dis pas plus, mais si tu te sens de dire c'est quoi le grand
Alors,
thème.
je vais explorer un univers encore différent parce que je vais écrire un roman de science-fiction.
D'accord.
Donc, pour moi, c'est quelque chose de nouveau parce que les précédents romans n'étaient pas de la science-fiction. C'est quelque chose qui m'intéresse aussi beaucoup et qui me titille depuis que je suis adolescent, parce que comme tout adolescent, j'avais adoré, enfin, j'ai fait mes classes, on va dire, de lecture avec des ouvrages de science-fiction. Et en fait, c'est un domaine complètement enthousiasmant, parce que moi qui aime bien l'innovation, la création, l'originalité, là j'ai vraiment la carte blanche. Tout à l'heure, je parlais des différents métiers du cinéma au travers de l'écriture, mais là, en plus de ça, il y a l'univers à construire. Donc, en plus d'être tous les métiers du cinéma, on joue aussi le rôle de Dieu où on va créer son univers, les personnages, la technologie, l'époque, etc. Donc, c'est vraiment très excitant comme projet et j'adore ça. Ouais.
Eh ben, merci beaucoup Pierre Rofast, tu nous as mis l'eau à la bouche. Donc merci de ton accueil. C'était donc David Melmans qui interrogeait Pierre Rofast, romancier, à la faveur de la publication de la nouvelle édition de Habemus Piratam dans toutes les librairies. Nous étions le mardi 1er février 2022 et nous étions à Clermont-Ferrand. Merci Pierre.
Merci David.